Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et bienvenue dans Géopolitique que vous pouvez également écouter en podcast. L'agglomération de Port-au-Prince contrôlée à 80% par des gangs qui terrorisent la population haïtienne en toute impunité. Haïti est en proie à une crise politique et sécuritaire qui ne cesse de s'aggraver depuis plusieurs années. 200 groupes armés y sévissent dans un contexte de dysfonctionnement et de paralysie du système judiciaire. L'été en France a été particulièrement meurtrier. Marseille, Grenoble, la Seine-Saint-Denis ont connu des fusillades liées à des guerres de territoire, à la suite notamment des opérations Place Nette pour cause de Jeux Olympiques. Les infractions liées aux stupéfiants ont bondi de 138% selon la préfecture de police. La France en proie aux bandes criminelles serait, dit-on, en train de devenir le Mexique européen. En tout cas, jamais la richesse et le pouvoir du crime organisé n'ont été aussi importants. Jamais les criminels n'ont occupé un tel espace. Ils se jouent des frontières, ils dirigent des empires, ils ont infiltré les systèmes économiques et politiques au point d'en contrôler des pans entier. Certaines mafias sont aujourd'hui plus puissantes que des États. Le crime organisé est fluide, transnational, entreprenant, voire audacieux. Une industrie estimée à 3 000 milliards de dollars, cartels mexicains, mafias italiennes, triangle d'or asiatique. Les syndicats criminels ont embrassé la globalisation et la high-tech alimentée par la diffusion à l'échelle planétaire de la corruption et la kleptocratie. Criminalité organisée, narcotrafic, blanchiment et corruption, la part d'ombre de notre monde, la gangstérisation ou le roman noir de la mondialisation. Pour cette édition, en partenariat avec la revue Questions internationales, nos invités en studio, Clotilde de Champerrache, maître de conférence au CNAM en criminologie et auteur de Géopolitique des mafias aux éditions Le Cavalier Bleu. Bonjour.
Bonjour.
Nasser Lalame, directeur de la recherche et de la prospective à l'Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur. Bonjour.
Bonjour.
Serge Sûr, membre de l'Académie des sciences morales et politiques de l'Institut, rédacteur en chef du numéro de Questions internationales consacré à la gangstérisation du monde. Bonjour.
Bonjour.
Et avec nous par téléphone depuis Singapour, Erwan Thor, magistrat expert pour l'ONUDC, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ancien chargé de mission lutte contre la traite des êtres humains et criminalité connexe au sein de la représentation permanente de la France près l'Office des Nations Unies à Vienne. Bonjour.
Bonjour.
Trafic de drogue, de migrants, traite d'êtres humains, blanchiment d'argent, trafic d'armes à feu, trafic de produits contrefaits, d'espèces sauvages, de biens culturels, cybercriminalité. Qu'est-ce que l'on peut dire du paysage criminel aujourd'hui dans le monde et comment expliquer sa prolifération? L'expansion du crime organisé constitue-t-elle un principe dominant des relations internationales? Serge Sûr, est-ce qu'il y a une géopolitique du crime organisé?
Alors, permettez-moi d'abord de contester l'expression même de crime organisé, parce que c'est une expression médiatique et que tout le monde comprend, mais il me semble qu'elle n'est pas exacte. Parce qu'en réalité, si on parle de crime organisé sur le plan international, il n'y a pas de définition internationale de ce type de crime. Et les définitions sont nationales, elles peuvent varier, il y a donc une très grande diversité. Et au fond, la criminalisation, elle appartient aux réponses à ces activités, beaucoup plus qu'à leur définition. Et j'ajoute qu'un certain nombre de ces activités ont une apparence légale. Rappelons-nous du film matriciel Le Parrain. Mmh. Que dit Don Corleone ? Moi, je veux que mes activités deviennent légales et qu'on puisse parler de sénateur Corleone, gouverneur Corleone. Et tout le problème, c'est qu'un certain nombre de ces activités sont légales, notamment grâce au blanchiment d'argent,
elles le deviennent,
notamment
en tout cas
grâce aux crypto-monnaies, elles deviennent légales.
Elles ne le sont pas à l'origine, mais elles le deviennent.
Comment pouvez-vous parler de criminalisation ou de criminalité? Non, je suis d'accord avec l'expression de mafia, avec l'expression de géopolitique des mafias.
Mais pourquoi
sûr.
Crime organisé n'est pas le bon terme,
à cause de l'expression crime, qui relève du droit pénal. Et le droit pénal n'est pas une notion internationale. Et nous parlons de mafias qui ont une activité internationale. Sinon, questions internationales, on n'aurait pas parlé. Alors, je dois dire que ça a été une des premières difficultés lorsque nous avons conçu ce numéro, parce qu'il a fallu faire accepter l'expression de gangstérisation. Mmh. Tout le monde me disait, mais c'est crime, etc. Non, je ne pense pas. Ça relève de la réponse. Et puis, la deuxième question, deuxième problème que nous avons dû résoudre, c'est que les États sont parfois des auteurs de ces crimes. Vous savez, c'est le mot de Churchill qui disait « Les grandes nations se sont toujours comportées comme des gangsters et les petites nations comme des prostituées ». Regardez aujourd'hui la scène internationale, vous avez des violations manifestes, ouvertes du droit international qui relèvent d'une certaine manière d'une criminalité. Mais nous avons écarté tout ce qui concerne les États.
Alors, oui, on reviendra je l'ai bien noté, parce que des États gangstérisés, il y en a beaucoup.
Oui, bien sûr. L'État, il peut être victime, il peut être complice, il peut être auteur. Et au fond, nous avons retenu l'État victime ou complice. Vous avez cité Haïti, il est bien clair qu'Haïti est victime. En revanche, certains États, certains narco-États, sont clairement complices du trafic de drogue. Et quand je ne citerai pas de nom pour éviter
les des élections volées, je pense au Venezuela, avec l'actualité récente.
Au Maroc. Le Maroc est évidemment complice d'un trafic de drogue très important et qui touche particulièrement l'Europe et la France également. Ceci étant dit, sur la géopolitique, je crois que le terme de géopolitique que d'habitude on réserve aux États est particulièrement justifié s'agissant de ces bandes organisées qui ont une activité internationale. Mais là-dessus, il me semble que Clotilde Champérache est beaucoup mieux à même que moi de répondre.
Alors, Clotilde Champérache, est-ce qu'il y a une géopolitique du crime organisé ? Je ne sais plus comment dire, moi. Donc, le crime organisé, ce n'est pas ça qu'il faut que j'emploie. Alors, je ne sais plus quoi dire. Parce que finalement,
écoutez, vous êtes...
Je suis libre de...
Libre de votre...
Alors, moi, j'ai tendance à parler d'organisation criminelle, ce qui est un petit peu un entre-deux. Et parmi ces organisations criminelles, il y a des modèles plus ou moins aboutis. Et les mafias sont vraiment un modèle très particulier. C'est ce qu'on appelle l'élite du crime organisé, dans le sens où là, il y a un côté totalisant. Dans ces organisations criminelles, elles sont économiques, elles sont politiques, elles sont sociales dans leur façon d'impacter les sociétés dans lesquelles elles s'implantent. Il y a une géopolitique de ces organisations criminelles parce que partout dans le monde, on a des manifestations criminelles, gangsters, en tout cas de non-respect des interdits édictés par des sociétés. Et d'ailleurs, je pense aussi qu'on a tendance à trop regarder les choses du point de vue actuel. Or, le non-respect des lois, c'est depuis les fondements de nos sociétés. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très ancien.
Dès qu'il y a loi.
Voilà. Donc, dès qu'il y a groupe social avec des interdits, qui peuvent être justifiés ou non, d'ailleurs. Parfois, il y a des non-respects d'interdits qui, après, font changer la loi et pour le mieux. C'est l'interdiction de l'homosexualité à une époque qui, combattue, finit par tomber et on ne voit pas le problème que ça aurait porté à la société. Mais donc, dès qu'on édicte des lois, on va avoir des contrevenants. La question, c'est combien sont ces contrevenants ? S'ils sont très nombreux dans une société, ça dit aussi quelque chose d'un mauvais fonctionnement de la société. Est-ce que ces contrevenants sont seuls ? Est-ce qu'ils sont organisés ? Et puis, je pense que dans cette problématique de gangstérisation, il faut tenir compte des organisations criminelles, des grands acteurs comme les mafias, mais aussi du fait qu'effectivement, les comportements illégaux, illicites, ne sont pas imputables exclusivement à des acteurs criminels. C'est-à-dire que la sphère légale est complice ou tolérante et qu'elle donc porte des responsabilités dans ce phénomène de frontières qui s'effritent entre le légal et l'illégal. On a longtemps pensé en termes très dichotomiques. Il y a d'un côté l'économie légale, de l'autre l'économie illégale. Et puis c'est étanche, les bons, les mauvais. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et on est dans une situation où l'économie est de plus en plus grise. Et ça, c'est problématique. Et on a encore une fois une responsabilité du monde légal qui est non négligeable.
Vous écoutez RFI, Marie-France Latin.
Alors, tout est connecté, hein, les frontières, une friabilité, vous l'évoquiez, et puis connexion entre les mafias ou les organisations criminelles. Ce sera intéressant de voir qu'est-ce qui lie, par exemple, tel groupe de mafia italienne au cartel de drogue au Mexique. Votre commentaire, Nasser Lalame.
Alors, permettez-moi de revenir peut-être sur la dimension géopolitique. Et moi, j'ai un prisme qui est celui des drogues illicites. Et j'aimerais revenir un peu à un père fondateur de la géopolitique des drogues, qui est Alain Labrousse, qui avait bien montré justement cette imbrication entre le légal et l'illégal. Et qu'en fait, il faut revenir un peu aux bases historiques. Et les drogues sont un peu un cas paradigmatique de cette imbrication entre le légal et l'illégal, y compris du jeu de certains États, des États puissants, hein, comme la France, les États-Unis et d'autres encore, qui ont participé de la diffusion de ces drogues, de la banalisation dans une certaine mesure, et du rôle quasi diplomatique de l'utilisation des drogues dans les conflits. Alors évidemment, je ne reviens pas aux guerres de l'opium avec la Grande-Bretagne, mais on peut prendre aussi d'autres exemples, le financement des conflits armés avec... la vente de drogues illicites, hein, que ce soit l'héroïne ou alors financement des contras au Nicaragua par les États-Unis. Donc on a plein d'exemples de cette imbrication sur un plan géopolitique du légal et de l'illégal. Aujourd'hui, on peut parler par exemple du Captagon avec la Syrie. Donc on a véritablement cette dimension géopolitique qui est omniprésente. Et pour revenir sur...
Et lien avec le terrorisme aussi. Alors je ne sais pas si c'est le moment à ce stade de l'évoquer, mais je pense que...
Et il peut y avoir des liens, mais il ne faut pas les surinterpréter, ces liens. Parce que pendant longtemps, on a dit que le financement du terrorisme provenait de la drogue. Alors, quelques études tentent à montrer que finalement, les financements sont multiples et la drogue est noyée parmi d'autres sources de financement, notamment tout ce qui est contrebande. Par exemple, si on va au Sahel, le trafic de bétail, par exemple, participe du financement, dans une certaine mesure, des actions terroristes.
Alors, Erwan Thor, vous êtes loin de nos studios parisiens. Je rappelle que vous êtes avec nous par téléphone depuis Singapour. Quel commentaire vous avez envie de faire à ce stade et après avoir entendu ce qui s'est dit sur la terminologie, la géopolitique des organisations criminelles?
Ce stade vous autorise à utiliser le terme de criminalité organisée. Alors, évidemment, dans notre code de procédure pénale, on parle de crimes commis en bande organisée. Mais au niveau international, comme l'indiquait Serge Sûr, on a bien la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Donc on a cette notion de criminalité organisée qui est tout à fait acceptée au niveau juridique, avec des éléments qui sont définis par la Convention des Nations Unies pour les crimes, la criminalité transnationale organisée, qui estime qu'en réalité, il faut dire un groupe structuré de 3 personnes et plus et une infraction grave, c'est-à-dire puni d'au moins 4 ans d'emprisonnement, avec évidemment un caractère transnational pour avoir cette convention applicable. Pour le reste, bien évidemment, la traite des êtres humains comme les autres formes de criminalité organisée trouve à s'appliquer au niveau national, mais également fortement au niveau transnational, où on va identifier 3 types d'acteurs. La victime, bien sûr, également aussi le commanditaire, et puis il va y avoir toute la chaîne des personnes qui sont impliquées dans le processus de traite des êtres humains. Et également, donc, on a la victime, le commanditaire ou le client, si vous préférez, et puis on va avoir aussi les autres acteurs. Donc c'est important d'imaginer la traite des êtres humains comme une infraction transnationale entre plusieurs États. Je reviendrai là-dessus, mais on parle souvent, par exemple, de pays d'origine, de transit et de destination. Donc on a aussi cette transnationalité qu'on retrouve d'une façon générale dans les dossiers de traite des êtres humains, même si, encore une fois, la traite des êtres humains existe au niveau national. Et en France, on pourra le voir après également, les victimes de traite des êtres humains sont pour moitié des ressortissantes françaises. Donc il faut bien distinguer le trafic de migrants et la traite des êtres humains, puisque les victimes de traite des êtres humains en France, ce n'est pas le cas dans les autres pays de l'Union européenne, mais elles sont pour moitié des ressortissants français. Voilà ce que je voulais dire.
Oui. Alors effectivement, et je rebondis sur ce que vous avez dit là, la question de la traite des êtres humains et trafic des migrants, la distinction est à faire tout de même, d'une certaine manière, Erwan Thor, il y a aussi interconnexion.
Alors, c'est très compliqué de répondre sur ce point. Je pense que quand les États membres des Nations Unies se sont réunis pour définir les termes de cette Convention des Nations Unies pour lutter contre la criminalité transnationale organisée en 2000, ils ont souhaité y ajouter 3 protocoles. Les 2 premiers, c'est le protocole pour lutter contre la traite des êtres humains et le second, c'est le protocole pour lutter contre le trafic de migrants. Donc vous voyez, dès le début, dès le moment où on a cherché à donner une définition universelle à la traite des êtres humains, on a voulu clairement distinguer ce qui relève de la traite des êtres humains et du trafic des migrants. Alors oui, les migrants irréguliers sont plus vulnérables à l'exploitation. Et évidemment qu'on va trouver, notamment dans plusieurs pays de l'Union européenne, des migrants irréguliers qui sont victimes de traite des êtres humains. On a tous en tête la traite des Nigérianes. Donc ça, c'est une réalité. Quelle est la différence? Les différents experts cherchent à donner de nombreuses possibilités de distinguer les crimes. Pour simplifier les choses, je vous dirais que le plus important, c'est de savoir est-ce qu'il y a exploitation ou pas. S'il y a une exploitation, il y a de la traite des êtres humains. S'il n'y a pas d'exploitation, on pourra poursuivre les auteurs pour trafic de migrants. Mais pas d'exploitation, ça n'est pas traite des êtres humains. Donc des migrants irréguliers qui sont emportés par des trafiquants qui vont les transporter, même s'ils vont entraîner des contraintes contre ces personnes, c'est-à-dire leur demander de payer plus d'argent, les loger dans des situations difficiles, leur prendre leur passeport. Tout ça, ce sont des indicateurs qui pourraient y avoir de la traite d'êtres humains. Et ben, je vous répondrai, s'il n'y a pas d'exploitation à la fin, s'il n'y a pas d'exploitation pendant le processus de transport et après, on n'est pas dans la traite des êtres humains, on est dans le trafic de migrants aggravé. Donc la différence, c'est celle-ci.
Alors, je reprends la main ici en studio pour essayer de comprendre quels sont les derniers développements dans chacun de vos domaines. Nasser Lalame, vous avez signé un article sur la drogue. Clotilde Champérage sur la délinquance financière, mais vous êtes aussi spécialiste des mafias. Quels sont les derniers développements en matière de drogue, Nasser Lalame, de trafic de drogue, dont on peut rappeler qu'il est numéro un au palmarès des activités des organisations criminelles, de plus en plus concurrencé peut-être par la cybercriminalité, mais voilà.
Sans doute, mais il est vrai que pour l'instant, si on se fie aux données de l'Office des Nations Unies sur les drogues et le crime, le trafic de drogue demeure l'activité criminelle majeure et dominante à l'échelle mondiale. C'est une activité productive. D'ailleurs, des pays n'ont pas manqué de l'intégrer dans le PIB, au grand dam de certains. Je pense à la France qui l'a fait sous l'injonction d'Eurostat, qui a inclus le chiffre d'affaires des drogues dans le PIB.
On en est où en termes de... Vous les avez en tête, ces chiffres,
On doit être autour de 3 à 4 milliards d'euros annuels.
Connus.
Enfin, en tout cas, c'est les chiffres estimés. C'est une estimation qui est évidemment...
Est largement supérieure peut-être
Sans doute. Mais en tout cas, à partir d'un certain nombre de méthodologies, notamment des enquêtes en population générale, on arrive à déterminer... Ça n'est qu'une estimation, je dirais à peu près 4 milliards d'euros annuels pour la France. Alors, pour en revenir aux évolutions des drogues à l'échelle mondiale, je dirais que les drogues ne connaissent pas la crise. Quand bien même, il y a des recompositions sur certains territoires. Il y a de la transformation. Je pense par exemple à l'Afghanistan, dont les cultures consacrées aux pavots ont drastiquement diminué. Je pense également...
Ça, c'est l'impact taliban en Afghanistan.
Tout à fait. Donc, l'arrivée des talibans en 2021, très rapidement, ils prennent une décision de bannir la culture de pavot dans certains territoires. Alors, ça ne va pas sans difficulté. Évidemment, ça implique un grand nombre de problèmes, hein, notamment de ces paysans qui ne comptaient que sur la culture de l'opium et qui se retrouvent sans ressources. Et donc, à charge pour ces pays de trouver des ressources. Alors, on s'oriente vers des cultures de substitution, notamment le blé ou des céréales.
Ça rapportait pas autant.
Pas suffisant pour, justement, quand on s'est habitué à une drogue, je parle pas des consommateurs, mais là, y compris du côté de la culture, c'est difficile de changer de mode de ressources. Donc, j'en reviens donc à ces évolutions des marchés. Je dirais, ça ne connaît pas la crise. Il y a une grande disponibilité des drogues, une variabilité des drogues et... surtout une qualité accrue concernant ces drogues. C'est-à-dire qu'on a des drogues qui sont de plus en plus titrées, comme on dit dans le jargon, titrées c'est-à-dire en pourcentage de substances actives, que ce soit le cannabis, que ce soit la cocaïne, c'est-à-dire que la cocaïne de rue, par exemple, elle est beaucoup plus titrée maintenant qu'il y a 10 ou 15 ans. On va trouver...
Mais ça veut dire quoi, finalement ?
Ça veut dire qu'elle est plus pure. Et donc, qui dit plus pure, dit moins d'intermédiaires, dit une grande disponibilité des drogues, et que les routes... sont beaucoup plus directes pour arriver jusqu'au territoire français, par exemple. Donc on connaît bien le rôle des ports, hein, ça a été dit et redit, et donc on a une diversification des routes.
Et puis les sociétés de transport,
oui,
les sociétés
sûr.
Maritimes.
Exactement, donc là il y a tout un écosystème de transport qui facilite le transport de ces principales drogues d'origine naturelle, la cocaïne, l'héroïne ou le cannabis.
Mmh. On parlera un peu plus tard peut-être du fentanyl dans le trafic de drogue. Et juste pour nos auditeurs, puisqu'on parlait des sociétés de transport, notamment maritimes, parce que le transport se fait essentiellement maritimement, c'est seulement 1% des conteneurs qui circulent dans le monde qui sont contrôlés. C'est absolument fascinant. Nasser Lalame, on vous retrouve avec Serge Sur, Clotilde Champérage et Erwan Thor après le journal. À tout de suite.
Vous souhaitez réécouter Géopolitique ? Rendez-vous sur RFI.fr. Géopolitique, Marie-France Chatin.
Gangstérisation, le roman noir de la mondialisation. Nous retrouvons nos invités Clotilde de Champerrache, maître de conférence au CNAM en criminologie, auteur de Géopolitique des mafias aux éditions Le Cavalier Bleu. Nasser Lalame, directeur de la recherche et de la prospective à l'Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur. Serge Sûr, membre de l'Académie des sciences morales et politiques de l'Institut, rédacteur en chef du numéro de questions internationales consacré à la gangstérisation du monde. Et depuis Singapour, Erwan Thor, magistrat, expert pour l'ONUDC, Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ancien chargé de mission lutte contre la traite des êtres humains et criminalité connexe au sein de la représentation permanente de la France près l'Office des Nations Unies à Vienne. Serge Sûr, on a terminé la première partie de l'émission avec Nasser Lalame qui évoquait les évolutions en termes de trafic de drogue. Et avant de passer la parole à Clotilde de Champerrache pour nous parler de délinquance financière et de mafia, vous aviez des observations à nous faire.
Oui, de tout ce qui a été dit, je voudrais retirer trois observations. La première, c'est que ce numéro, il s'intéresse à des faits bruts, qui sont des transgressions organisées. La criminalisation, c'est une réponse à ces faits bruts. Comme je l'ai exposé, il y a différents types de criminalisation. Et il y a d'autres réponses juridiques. Par exemple, la réponse sécuritaire. Et on a pris tout à l'heure l'exemple du Captagon. Eh bien, le Conseil de sécurité a voté une résolution contre le Captagon et la production par la Syrie de Captagon. Ça n'est pas une réponse judiciaire, c'est une réponse sécuritaire. Donc, distinguons bien ce qui est les faits bruts et les réactions juridiques qu'ils peuvent entraîner, qui relèvent effectivement pour une large partie de la criminalisation, mais aussi d'une réponse sécuritaire, et notamment en matière de terrorisme. Et on connaît les liens qui existent entre la criminalité organisée et le terrorisme. Et puis, à propos de la criminalisation et de l'intégration des différents trafics dans le PIB et des estimations auxquelles elles donnent lieu, je voudrais simplement rappeler qu'on distingue trois types de criminalité. La criminalité réprimée, c'est-à-dire celle qui donne lieu à des punitions. La criminalité légale, celle qu'on connaît. Et déjà, il y a une très grande marge entre les deux. Et puis, il y a la criminalité réelle, qui est simplement estimée, et dont le rapport entre la criminalité légale et réelle est encore un rapport très élevé.
Criminalité légale, c'est assez antinomique, Serge Sûr, tout de même.
Non, la criminalité légale, c'est celle qu'on a discernée, et que donc on a pu noter sur le plan statistique. On sait bien qu'il y a un certain nombre de crimes qui sont réalisés chaque année, mais tous ne donnent pas lieu à des poursuites judiciaires parce qu'on n'arrive pas à trouver les coupables. Il y a aussi les crimes parfaits. Et là encore, non seulement on ne les trouve pas, mais ils ne relèvent pas de la criminalité légale.
Alors, j'en reviens à ma question sur les derniers développements dans chacun de vos domaines. Je le disais précédemment, Clotilde Champerrache, vous êtes spécialiste des mafias, mais vous avez signé dans ce numéro de la revue Questions internationales un article sur la délinquance financière dans laquelle vous dites que les évaluations sont évidemment difficiles et les chiffrages impossibles. Quels sont les derniers développements dans ces deux domaines, enfin mafia d'un côté et puis délinquance financière, il y a peut-être aussi des interconnexions.
Oui, parce qu'on retrouve les mêmes acteurs dans diverses catégories. Je pense qu'on peut parler d'accélération. On le retrouve pour les drogues, parce qu'on est passé à une dimension industrielle du crime par moment. Les stupéfiants, effectivement, les marchés s'étant étendus grâce à la mondialisation, on va produire encore plus. Et puis, il y a des mécanismes aussi qui font que les consommateurs se diversifient atrocement. Et que là, dans l'estimation des consommateurs, on passe à côté de certaines catégories qui sont des consommateurs qu'on ne voit pas, parce que ce n'est pas le consommateur de rue qui va dans un point de deal de cité. Donc une accélération, une industrialisation. Et en ce qui concerne la délinquance financière, il y a véritablement une convergence des illégalités. Et c'est là qu'on retrouve ce problème de... oui, les organisations criminelles font du crime, mais ce ne sont pas les seuls. Quand on s'intéresse à la délinquance financière, on va se retrouver avec des flux financiers sales, c'est-à-dire qui contreviennent aux règles, encore une fois, établies communément. Alors évidemment, il y a les organisations criminelles qui ont de l'argent sale à blanchir, notamment du trafic de stupéfiants, mais pas que. Mais on a des cols blancs, des entreprises, des sociétés qui fraudent le système, des banques qui participent, qui sont complices, encore une fois, et activement complices, et qui anticipent une éventuelle condamnation et une négociation de la peine. Et tant que cette négociation de la peine vaut le coup d'un point de vue calcul coût-bénéfice, elles vont rentrer dans le système de fraude parce qu'il est efficient économiquement. Et puis, on a même des individus qui fraudent. Donc, ce n'est pas forcément des organisations. Il y a des fraudes qui se bâtissent sur pas grand-chose. Les JO, ça a été la fraude aux emplacements de food truck. Donc, il y a des petites bricoles, mais ça aussi, ça alimente la délinquance financière. L'évasion fiscale de grandes fortunes, c'est aussi ça. Et cette convergence des illégalités fait aussi qu'on ne va pas forcément chercher à tracer ces flux parce que, oui, on veut bien combattre les organisations criminelles, mais il y a des gens à qui on n'a pas forcément envie ou intérêt de toucher. De façon plus générale, en tant qu'économiste, par rapport aux organisations criminelles dans le monde des marchés illégaux, je dirais que les économistes s'appuient sur deux idées fausses, le monopole, la violence. Ça, c'est des vieux articles,
idées
fausses qui restent ancrées dans nos esprits. Monopole, ça serait, il y a une grande organisation criminelle qui a la main sur tout. Ça, c'est fini, ce monde-là. Et ça n'a même jamais véritablement existé. Ce qu'on voit actuellement, c'est une multitude d'organisations criminelles. Alors, bien sûr, elles n'ont pas toutes la même puissance, mais elles travaillent ensemble. Et c'est ça qui renvoie aussi à la violence. La violence, c'est ce qui est visible, c'est ce qui attire les caméras et c'est ce qui fait qu'on va donner le coup de poing de temps en temps. Mais il y a une grande partie de la criminalité organisée qui ne se manifeste pas sous forme violente, soit parce qu'il y a une capacité de conditionnement qui fait qu'on va obtenir ce que l'on veut sans même passer par la violence, mais aussi parce que justement, les organisations criminelles coopèrent entre elles. C'est ce qu'on a vu avec le décryptage des messageries SkyCC et Crochat. Les organisations criminelles qui paraissent être dans une logique d'affrontement, de règlement de compte, elles se réunissent, elles font des opérations de portage pour la drogue, elles commandent ensemble pour mieux négocier les prix, elles s'adressent à des intermédiaires qui eux-mêmes connaissent les producteurs de gros de la marchandise. Donc c'est un monde extrêmement coopératif. Et comme ils coopèrent, et c'est ça le drame des mafias par rapport aux autres organisations criminelles, à force de coopérer, il y en a qui apprennent, qui montent en puissance, parce qu'en plus, il y a une émulation. La mafia, ça reste, quand on voit la mocro-mafia, cette appellation, même si elle est journalistique, elle plaît aux criminels. Des aides mafias, c'était aussi se donner un nom qui n'est pas à la hauteur de l'organisation criminelle, mais c'est se valoriser. Être une mafia, c'est le summum de la réussite criminelle. Et donc, vous avez des organisations qui montent en puissance par apprentissage. C'est ce qui se passe au Brésil. Le PCC a collaboré avec la mafia calabraise et a beaucoup augmenté sa capacité de puissance. Les Albanais aussi, le crime albanophone, a travaillé avec la mafia calabraise et monter en puissance, entre autres, par cette coopération-là.
Alors, vous parliez de violence, là aussi, pour situer ce chiffre, 89 000 victimes de violences liées aux crimes organisés ou aux organisations criminelles, comme Serge Sûr préfère les appeler. C'est autant de victimes depuis le 21e siècle que tous les conflits dans le monde. Alors, Clotilde Champerrache parlait d'accélération. Est-ce que Erwan Thor, en matière de trafic d'êtres humains, vous avez la même tendance ?
Alors, le rapport qui fait vraiment référence, c'est le rapport, encore une fois, des Nations Unies, de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. C'est le même office qui a été cité préalablement pour le rapport sur les drogues. Donc, le rapport sur les drogues est le plus connu, mais le rapport sur la traite des êtres humains est extrêmement utile pour l'ensemble des parties prenantes à la prévention et à la lutte contre la traite des êtres humains. Le dernier rapport, parce que c'est tous les deux ans, date de 2022, et il prenait en compte des chiffres qui étaient liés à la période de la pandémie de Covid. Donc, dans ce rapport, on peut lire qu'il y a une stagnation des poursuites, qu'il y a, pour la première fois depuis 20 ans, moins de victimes identifiées, moins de personnes poursuivies. Alors, moi, je dis attention, parce que ça, c'était le rapport de 2022, il était fait sur des chiffres de 2020, et on attend donc le rapport 2024 qui va sortir à la fin de l'année ou au début d'année prochaine. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau français, au niveau des Eurostat, qui a été mentionné également tout à l'heure, on est vraiment sur de plus en plus de victimes qui sont identifiées. Donc une accélération, en tout cas, une meilleure identification des victimes. On a parlé de chiffres sur le montant des bénéfices qui peut être réalisé par les groupes criminels. Si on prend les estimations du nombre de victimes de traite d'êtres humains, on se retrouve avec les mêmes difficultés. C'est-à-dire qu'il s'agit d'estimations, et il faut bien distinguer Comme l'indiquait aussi Serge Sûr, j'aime bien ces trois types de criminalité entre la criminalité réprimée puis la criminalité qui est reconnue comme telle, identifiée, et enfin la criminalité réelle. Les différences entre la criminalité réprimée et la criminalité réelle sont très fortes. Hein. Alors, ne serait-ce que au niveau, prenons le niveau global, et puis après on peut revenir sur des niveaux européens ou français si vous le souhaitez. Au niveau global, on a ainsi les chiffres posés par le rapport de l'OIT, Walkfree et IOM, qui s'appelle l'estimation mondiale de l'esclavage moderne, qui lui évoque 50 millions de personnes en situation d'esclavage forcées de travailler contre leur gré ou dans un mariage qu'elles n'ont pas choisi. Et quand on regarde le rapport des Nations Unies contre la drogue et les crimes de 2022, on se rend compte que le nombre de victimes détectées et signalées en 2020, il est de 53 800. Donc vous voyez, entre 50 millions et disons 27 millions de personnes en situation d'esclavage de travail forcé et 53 000 détectées selon les chiffres qui ont été donnés par les États à l'ONUDC, la différence est énorme. Hein. Donc une explosion qu'on peut sentir par les associations qui cherchent à améliorer l'identification, le repérage des victimes, oui. Mais après, il y a une différence entre les chiffres des véritables poursuites par rapport aux chiffres des victimes identifiées par les associations. Mais même au niveau des poursuites, quand on regarde par exemple les chiffres qui sont donnés par le nouveau plan national contre la traite des êtres humains, qui est sorti il y a quelques mois, on a effectivement également une augmentation qui est soulignée même du nombre de poursuites. Voilà. Donc du coup, on a effectivement de plus en plus de victimes de traite des êtres humains identifiées. Sauf, comme je vous dis, attention au rapport de l'ONUDC de 2022 sur les chiffres 2020 de la pandémie. On retrouve ces tendances également au niveau européen. Et puis, aussi, ce que je voudrais dire, c'est souligner, puisque ça a été noté, que vous avez évoqué la notion de cybercriminalité, je pense que c'est l'utilisation d'Internet, des plateformes, par les auteurs de traite des êtres humains, qui effectivement a un facteur de démultiplication des actions de traite des êtres humains. Les nouvelles technologies, elles sont utilisées pour identifier les victimes avec les réseaux sociaux, pour les recruter, pour les contraindre. On le retrouve aussi à l'usage Internet pour les victimes, avec des annonces en ligne. On retrouve également pour tout ce qui est argent. On nous parlait de flux financiers, évidemment, l'usage d'Internet est très fort. Donc une démultiplication, oui, avec des facteurs comme celui d'Internet.
Avec donc cybercriminalité, usage et crypto-monnaie, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, le spectre est très large. Donc on l'a compris, beaucoup d'acteurs se nourrissent du crime organisé ou des organisations, font partie d'organisations criminelles, mais de près ou de loin, les États, les grandes institutions, les banques, les grandes sociétés de transport maritime, on l'a dit. Quelques mots, Nasser Lalame, sur la part du fentanyl dans le trafic de drogue. La production de fentanyl est pour l'heure uniquement pour le marché américain et canadien. Le fentanyl, pour l'avoir lu, est 30 fois plus fort que l'héroïne. Est-ce que la légalisation des drogues permettrait précisément de retirer toute cette part criminelle dans ces trafics ? La prohibition a d'une certaine manière engendré le crime organisé moderne. Est-ce qu'on peut parler d'échec d'un siècle de prohibition de la drogue ?
Je pense qu'il n'y a pas de réponse simple, concernant cette régulation ou réglementation des substances psychoactives. On sait qu'évidemment, les premières substances psychoactives que sont l'alcool, le tabac, où les médicaments sont largement diffusés, sont réglementés. Est-ce qu'il est utile d'en rajouter ? Est-ce qu'il y a un principe de réalité qui fait qu'aujourd'hui, le cannabis, dans certaines contrées, est légalisé ? Je prends les États-Unis, où il y a près de 38 États qui l'ont légalisé à des fins médicales, 24 à des fins médicales et récréatives. Donc la légalisation du cannabis fait son chemin, en tout cas dans certaines contrées. La France n'en prend pas la route. Les arguments à opposer justement à ce choix. La question que je me pose, c'est jusque quand l'Europe va-t-elle pouvoir tenir ? Parce que l'Allemagne a légalisé, on a l'Espagne qui commence à assouplir sa législation, le Portugal depuis un certain temps. Donc effectivement, on est en droit de se poser la question. Le Maroc lui-même, depuis 2021, autorise une production légale du cannabis à des fins industrielles et cosmétiques, voire médicales. Avec le CBD notamment, le cannabidiol. Donc pour l'instant, il est trop tôt pour le dire, mais en tout cas, je crois qu'il n'y a pas de réponse simple sur la question de la réglementation des drogues. Et de toute façon, il y a toujours des effets reports. Si on légalise telle drogue, les criminels sauront s'adapter, en créer de nouvelles. C'est le cas avec le fentanyl, vous l'avez dit. Hein. Le fentanyl est un médicament légal au départ. Et comment le Mexique s'est emparé de cette drogue? Alors, la Chine est un gros producteur, et ça s'explique historiquement. La Chine et l'Inde sont des gros producteurs de produits pharmaceutiques et utilisent donc des produits chimiques pour produire ces médicaments. Et ces produits chimiques, c'est un commerce légal mondial. Et le Mexique exporte de manière parfois légale, parfois illégale, ces produits qui entrent dans la composition du fentanyl. Aujourd'hui, le fentanyl est exporté vers les États-Unis. Ça a eu des incidences extrêmement délétères sur le plan de la santé des Américains, notamment des 18-45 ans, puisque c'est la première cause de mortalité. En 2023, c'est 75 000 morts aux États-Unis, c'est considérable. Et donc, les États-Unis ont fait une pression énorme auprès à la fois du Mexique, mais aussi de la Chine. Le Mexique continue à alimenter les États-Unis. Il n'est pas impossible qu'il s'oriente vers d'autres contrées. L'Europe, le Brésil, qui constitue aussi un lieu de d'écoulement de la marchandise. Mais l'Europe, effectivement, sera sans doute ciblée dans les prochaines années par le Mexique concernant ce produit qui est effectivement extrêmement nocif sur le plan sanitaire.
Serge Sûr, oui. Et après ça, je voudrais juste te poser, j'ai une question pour plusieurs, pour Clotilde de Champérage.
Serge Sûr. Vous voyez bien qu'il y a une dimension légale de la gangstérisation et qu'il ne faut pas assimiler criminalité et gangstérisme. C'est deux notions différentes, qui se recoupent en partie, mais qui sont différentes. Je voudrais juste ajouter un mot à propos de la délinquance financière. Pour une part, elle est autonome, c'est-à-dire qu'il y a des circuits qui pratiquent en soi la délinquance financière. Mais pour une autre part, elle est l'aboutissement de toutes les autres délinquances. Parce qu'il faut bien que les produits soient blanchis ou soient utilisés financièrement. Et donc, le relais est toujours un relais en argent. Et de ce point de vue, je voudrais dire que les crypto-monnaies, ne sont pas illégales, c'est le grand réceptacle d'une activité transgressive. Et là, nous sommes au cœur de la gangstérisation.
Alors, Clotilde Champérage, un commentaire, c'est effectivement, vous rebondissez en guise de conclusion.
Moi, c'est plus sur la légalisation que je voudrais revenir, parce que légaliser, ça n'est pas libéraliser. Donc, on ne résoudra absolument pas la question des trafics. On va réglementer, donc il y aura toujours des réseaux pour contourner la réglementation. Et puis, cette notion de légaliser les drogues, déjà, on n'en parle que pour le cannabis. Il y a des drogues, quand on voit les effets du crack, légaliser le crack, moi, je ne vois pas à quoi ça conduit. Jusqu'à quand on pousserait cette logique de légalisation? Et je pense qu'il faut revenir sur la notion de société qui est perdue dans cette logique de « il faut légaliser ». Si on légalise, c'est dans des logiques marchandes. On se dit « il y a une offre, il y a une demande, il y a un marché ». Laissons faire. Non, une société, elle s'appuie sur des interdits. Alors, on peut contester les interdits, on peut revenir sur certains interdits, la loi fluctue, mais il n'empêche qu'une société se construit par des interdits. Si on supprime tous les interdits, on supprime la société, on n'a plus qu'un marché, qui n'est pas forcément vertueux et bénéfique pour tous. Et donc, je pense que dans le débat, il faudrait quand même reposer la question de pourquoi on prohibe certaines marchandises. Et sur les drogues, c'est particulièrement important. On n'entend pas le ministère de la Santé. Il faudrait quand même faire de grandes politique de compréhension des risques que l'on prend à consommer ces substances qui sont loin d'être neutres, et c'est pour ça qu'elles sont interdites.
Et pour aller plus loin rapidement, Clotilde Champérage, est-ce qu'on peut parler de déni finalement des uns et des autres, à commencer peut-être par les politiques et...
Il y a des choix politiques à faire, et justement ces choix politiques, c'est revenir sur la notion de société qui parfois n'a pas les mêmes intérêts que le seul marché. C'est pas parce qu'il y a une offre et une demande que le marché doit exister. Il y a un temps où les économistes s'appuyaient sur ce qu'ils appelaient le legal economic nexus, c'est-à-dire l'imbrication et la coproduction du droit et de l'économie pour un capitalisme raisonnable. Je crois que cette pensée économique-là, on l'a oubliée, mais qu'il faudrait absolument la remettre en avant parce qu'elle est porteuse de progrès pour nos sociétés.
Matière à réflexion. Merci Clotilde de Champérage. Je rappelle que vous êtes maître de conférence au CNAM en criminologie et auteur de Géopolitique des Mafia aux éditions Le Cavalier Bleu. Merci aussi à Nasser Lalame, directeur de la recherche et de la prospective à l'Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur. Serge Sûr, membre de l'Académie des sciences morales et politiques de l'Institut, rédacteur en chef du numéro de questions internationales consacré à la gangstérisation du monde. Et depuis Singapour, Erwan Thor, magistrat, expert pour l'ONUDC, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ancien chargé de mission lutte contre la traite des êtres humains et criminalité connexe au sein de la représentation permanente de la France près l'Office des Nations Unies à Vienne. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Nathalie Laporte. Vous êtes bien sur RFI, place au Journal Afrique.